Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Et en cette période de confinement, avec toutes les mesures de sécurité qu'il faut, je rencontre Dominique Verdet. Bonjour.
Bonjour.
On peut retrouver aussi tes conférences sur RDWA. Tu es parti dans un cycle, j'allais dire, d'atelier, de partage, de transmission de ton savoir. Pourquoi ?
J'ai fait ça parce que quand l'été dernier, le printemps dernier, l'État a commencé à dire on dérembourse l'homéopathie, l'homéopathie n'est pas reconnue. En gros, ça veut dire on va encore une fois canaliser tous les soins sur une seule sorte de médecine. Mais il devrait y avoir autant de médecine qu'il y a de peuples ou d'individus sur cette planète. C'est-à-dire qu'on est tous différents et il faut accepter cette différence et soigner. Et soigner fonction de cette différence. Et quand ils ont cherché à fermer l'homéopathie, y a eu comme conséquence, c'est que les écoles d'homéopathie n'ont plus le droit de faire de pub dans les facultés de médecine. Certaines écoles ont été fermées. Et donc, je me suis dit, mais si on veut aider à ce que les gens soutiennent des médecines différentes, il faut que les gens sachent l'utiliser et voient comment c'est performant. Donc, il faut qu'ils aient les outils en main. Donc, on va démarrer ce cycle-là. On l'avait fait il y a une vingtaine d'années avec des jeunes mamans à l'époque. Ça avait été chouette. Après, on avait arrêté parce que je crois que les enfants n'avaient plus classe le samedi matin et que moi, du coup, ça me faisait redescendre surdit alors que j'avais les enfants à la maison, donc j'avais arrêté. Mais là, mes enfants sont grands et du coup, c'est bien possible. Et on a donc appelé ce collectif Homéopathie à la maison, mais il est ouvert à tout le monde. Si d'autres médecins veulent venir participer, ils sont les bienvenus. C'est pas du tout fermé, c'est ouvert à qui veut. Et je remercie, je te remercie beaucoup, Baptiste et Natacha, de nous aider dans ce sens-là.
Ben merci pour ça. Et donc, auditrices, auditeurs, vous pouvez aller voir ces cycles, et notamment le dernier qui parlait de ces viroses, pour aller un petit peu plus loin dans la partie homéopathique. Tu es docteur homéopathe. Oui. Qu'est-ce que c'est un docteur homéopathe ?
C'est un médecin qui essaye de soigner de façon le plus holistique possible, comme d'autres techniques, et qui, du coup... a comme objectif de permettre aux patients de retrouver leur médecin intérieur, c'est-à-dire de développer toute leur puissance de guérison qui est propre à eux.
On va sur de l'auto-immunité.
De toute façon, l'immunité, ce n'est pas forcément quelque chose qui est... contrairement à ce qu'on nous dit, nous les médecins, on nous dit toujours l'immunité, c'est pour se défendre contre les autres. Je pense que notre immunité, au fond, elle ne sert pas du tout à ça, elle sert juste à créer des liens avec l'univers. C'est-à-dire que quand on est en bonne santé et que notre immunité nous sert à percevoir l'autre d'une façon saine, bienveillante, facile. Par contre, quand on n'est pas dans cette optique-là, c'est notre immunité qui va nous permettre de nous défendre et du coup d'éviter de tomber malade.
Quelle étude on fait pour être au médecin homéopathe ?
C'est une étude, c'est des études en supplément qu'on peut faire pendant ou après. En général, on a une école qui dure 3 ans, qui se fait le week-end. C'est une science, en fait, l'homéopathie, qui demande énormément de temps parce que non seulement on a 3 ans d'études, mais surtout il faut connaître ce que veut dire un remède, ce que veut dire une maladie, ce que veut dire soigner. Et on est dans une approche complètement différente de l'approche allopathique.
Comment ? Ben, je veux dire, là aussi, il faut connaître une maladie quand on est un médecin normal. Sinon, on va s'attirer les foudres. Là.
Oui. Alors, on fait comme on a appris en médecine, parce qu'on est d'abord des médecins, c'est-à-dire on va chercher à comprendre et faire le diagnostic de ce qui est la maladie que présente le patient. Et puis, une fois qu'on a fait ce diagnostic, on va chercher quelle est la cause profonde de ce que le patient nous montre. C'est-à-dire... quelle est la raison pour laquelle il tombe malade ? Des fois, c'est simple, hein, on se prend une tuile sur la tête, on a mal à la tête depuis, ou on a des troubles de l'équilibre ou des choses comme ça, on ne va pas chercher plus loin que la tuile qui nous est tombée sur la tête, quoique. Mais La plupart du temps, il faut comprendre qu'une maladie, elle est endogène. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur de nous. Et si elle vient de notre intérieur, c'est qu'elle est mise en place par notre organisme pour essayer de réparer quelque chose qui est déjà déstabilisé à l'intérieur de nous. Donc la maladie est une chance à guérir quelque chose de bien plus profond que ce que présente la maladie elle-même.
Alors, pardon, mais est-ce que c'est valable aussi pour les maladies chroniques, génétiques, enfin, qui sont en fait des trucs qui semblent être là, qui des fois se déclenchent, des fois se déclenchent pas. Maladies très très longues.
Il y a tellement de choses à dire, je ne sais pas par quoi commencer. Autrefois, la maladie aiguë, c'était vraiment la maladie endogène, et c'était ce qui permettait à quelqu'un de dépasser quelque chose qu'il bloquait dans sa vie. Il allait faire une bonne grippe, il allait être malade une semaine, 8 jours, derrière il allait être affaibli, et puis il allait repartir avec des forces nouvelles, avec une vision nouvelle. Il se sera mis en pause pendant ces 8 jours, et du coup ça lui permettait d'avancer beaucoup dans sa vie. Je remarque que plus on évite les maladies aiguës, plus on rentre dans les maladies chroniques. Et pour moi, c'est pas du tout un hasard. C'est comme si les maladies chroniques venaient prendre la place de maladies aiguës. En gros, la différence entre les deux, une maladie aiguë, c'est une maladie qui nous arrive dessus, presque du jour au lendemain, et qui se termine soit par une guérison, soit par la mort. Une maladie chronique, c'est une maladie qui arrive insidieusement, dont les symptômes vont commencer à augmenter progressivement, et qui effectivement, jour après jour, année après année, détruit, déstabilise, amenuise notre système de défense ou notre système de santé, pour finalement nous emmener vers la mort. C'est pas du tout la même chose.
Les maladies génétiques, je sais pas, j'ai cité cette marque, la Téléthon, parce que j'ai pas les noms derrière. Ces choses-là, les dégénérescences, que certaines personnes, tout d'un coup, un jeune à 16 ans commence, tout se dégénère. C'est celle-ci dont on parle, ou est-ce que c'est encore autre chose ?
Les maladies chroniques, ça peut être autant une arthrose hyper évoluée qu'un problème de myocardiopathie qui s'aggrave au fil du temps, qu'effectivement des maladies génétiques. Les maladies génétiques, c'est comme si la personne naît avec au départ un handicap ou une chance plus importante de faire un handicap dans un certain domaine de sa santé tôt ou tard. Mais encore une fois, la maladie, elle est endogène, certes, mais l'état de conscience d'un individu peut être encore plus important que la fragilité avec laquelle il naît au départ. C'est-à-dire que la génétique, c'est une chose, mais la façon dont la personne va ouvrir sa conscience et développer ce qu'il est, son humanité, peut lui permettre d'être bien plus fort que cette déstabilisation génétique qu'il a dès le départ.
Et est-ce que cette déstabilisation génétique vient du fait qu'effectivement on s'est mis à soigner les maladies aiguës pour rejoindre ?
Pour répondre comme ça un peu rapidement, il faudrait peut-être que je réfléchisse plus, mais si je dois te répondre rapidement, je dirais oui. Parce que encore une fois, si on n'a pas régulièrement quelque chose qui nous remet nos compteurs à zéro, comme si on faisait... par exemple, je parle sur les enfants. Les enfants, avant, quand ils étaient petits, ils faisaient une rougeole, ils faisaient des oreillons, ils faisaient une rubéole, ils faisaient une varicelle. Et derrière, ils restaient plus ou moins malades un petit moment. Mais derrière, ils avaient pris en général, on disait, tiens, il a appris à marcher alors qu'il ne marchait pas. Tiens, maintenant, il parle couramment alors qu'il peinait à parler et à mettre deux mots à la suite. Tiens, maintenant, il a pris 20 cm depuis 2 ans alors que ça faisait à peine 5 cm par an, à peine depuis 3 ans. Et chaque fois, ça a été une occasion pour les enfants de grandir. Je pense que ces maladies-là, depuis la nuit des temps, on a su les soigner. Contrairement à ce qu'on dit beaucoup de médecins, ces maladies, quand elles étaient passées à la maison, quand on savait accompagner les fièvres, accompagner l'enfant malade, prendre ce temps qui est important pour accompagner un enfant quand il ne va pas bien, ces maladies n'étaient pas graves. À partir du moment où on nous a mis dans une sorte de stress, parce que le temps va toujours plus vite, parce qu'on ne peut pas se permettre de manquer à son travail, d'avoir des absences, il a fallu aller de plus en plus vite, empêcher que les enfants soient malades, parce qu'en termes de coûts pour le travail, ça revenait très cher à l'employeur ou à l'État. Donc on a dit, les enfants ils vont aller à l'école avec du Doliprane, ou ils vont aller à l'école rapidement avec un antibiotique, plus je ne sais quoi. Et là, ces enfants n'ont pas eu cette pause qui est nécessaire. Je pense qu'une maladie aiguë vient mettre une pause dans un mode de fonctionnement qui a besoin d'être revu.
Compris pour la famille et l'entourage.
Y compris pour la famille et l'entourage. Parce que quand il y a un enfant malade, ou deux ou trois dans une maison, les parents, c'est les premiers à devoir se remettre en question. D'abord parce qu'ils ne pourront pas faire ce qu'ils avaient prévu. Donc en général, ils sont pas bien là-dessus. Ils ne dorment pas comme ils ont l'habitude, parce que les enfants viennent les réveiller la nuit et ça fout le bouzou. Donc ça fout aussi beaucoup de tension dans les couples. Et donc même les parents sont obligés de se remettre en question. Donc c'est une très bonne façon de se remettre en question. Bien sûr, il y a toujours des maladies aiguës qui se passent mal. Mais la plupart du temps, c'est quand même quelque chose qui est relativement, dans notre contexte occidental, qui est quelque chose qui se passe relativement bien, et même qui est très bénéfique.
Comment t'es venue donc aller vers l'homéopathie ? Quel a été le déclencheur ?
Je n'imaginais pas être un jour un médecin déjà, et je n'imaginais pas avoir à donner des médicaments qui pouvaient rendre malade quelqu'un. Quand j'avais 16 ans, on m'a donné un jour un antibiotique, et sans m'expliquer ce que c'était d'ailleurs, j'étais interne, et là-dessus je suis allée faire la montagne avec mon frère, et j'ai fait une photosensibilisation et j'ai eu le visage gravement brûlé, et jusqu'à ce qu'une amie de ma sœur qui était déjà en médecine, qui était dermatologue, me disent, mais ça c'est une photosensibilisation médicamenteuse, qu'est-ce qu'on t'a donné ? Comme l'internat était fermé, je ne savais pas du tout ce qu'on m'avait donné, mais il s'est avéré par la suite que c'était un antibiotique photosensibilisant, et j'ai vraiment compris qu'on soignait quelque chose, mais on rendait malade autre chose. Donc pour moi, il était hors de question qu'un jour je fasse la même chose à quelqu'un d'autre. J'en ai suffisamment bavé à l'époque. Et je me suis dit, il y a d'autres façons de soigner. Et depuis toujours, en fait, j'ai cherché dans les autres façons de soigner. Donc j'ai d'abord été beaucoup avec la phytothérapie, avec l'aromathérapie. Je me suis intéressée aux huiles essentielles, c'était en 84. À l'époque, il y a eu une université à Paris, à Bobigny, qui a ouvert un diplôme de médecine naturelle, le Duména. Et j'avais une sœur, une grande sœur qui a 8 ans de plus que moi, qui faisait ses études de médecine et qui commençait homéopathie. Donc j'ai voulu faire de l'homéopathie là-bas. La façon dont c'était enseigné ne me plaisait pas, donc j'ai arrêté. J'ai fait de la phytothérapie, de l'aromathérapie. J'ai toujours été fascinée par le monde des plantes. Depuis que je suis toute petite, je suis allée beaucoup marcher avec un oncle qui connaissait énormément les plantes et qui me disait, cette plante, elle sert à ça. Tiens, celle-là, autrefois, tu vois, on l'a cueillie, on l'a séchée, on s'en servait pour ceci. Et du coup, systématiquement, quand on partait, on emmenait un bouquin et on botanisait déjà. Et moi, je regardais ça avec des grands yeux sans savoir qu'un jour, je pourrais en faire quelque chose. Donc, j'ai commencé comme ça avec Bobigny. Et puis, je me suis dit, il faut que je fasse de l'homéopathie, mais d'emblée, pour avoir lu un livre qui est très important pour les homéopathes, qui s'appelle L'Organon, je savais que si je faisais de l'homéopathie, il fallait que je trouve dans le remède une vibration qui aide mon patient à vibrer, c'est-à-dire à avoir une énergie qui fonctionne de façon équilibrée, saine. Donc il allait falloir que je trouve un remède, voire deux maximum, mais pas toute une panoplie de remèdes, ce qui me posait problème, parce que trouver une école en France à l'époque qui enseigne l'homéopathie uniciste, c'était difficile.
Ouais, donc il y a une différence entre l'homéopathie uniciste et le fait de répondre à tout. Non, mais parce que c'est intéressant, et d'ailleurs il y a même dans la médecine généraliste maintenant des gens qui n'hésitent pas à donner de l'homéopathie. Les pharmaciens aussi le font de manière assez spontanée, c'est facile.
Alors, je cherche surtout pas. Pour moi, on est tous à la recherche de mettre de la bienveillance et de la santé envers nos patients. Oui, chacun va vouloir utiliser l'homéopathie. Quand on en a pas trop l'habitude. En général, on va essayer d'avoir des questions-réponses, c'est-à-dire si j'ai un patient qui a tel problème, si j'ai un patient qui chute, je vais lui donner de l'arnica. Si j'ai un petit patient qui est en train de faire ses dents et qui a mal aux dents, je vais lui donner du camomilla. Et on a des petites recettes de cuisine comme ça, qui sont à la fois connues des médecins, parce que ça marche très bien, même des allopathes, et puis connues des pharmaciens, et ça c'est une bonne chose. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin, parce que par exemple, pour parler d'arnica, arnica peut soigner une dépression, il peut soigner une grosse grippe, il peut soigner un état dépressif suite à des traumatismes psychologiques qu'on a vécu X temps en arrière. Camomilla peut être un remède d'accouchement merveilleux. Leur effet thérapeutique va bien au-delà de ce pourquoi il est utilisé. Et quand on travaille vraiment la matière médicale, c'est-à-dire tous les signes que ces remèdes peuvent soigner, on s'aperçoit que chacun contient une énergie phénoménale pour soigner dans tous les sens un individu malade.
Alors, les patients qui viennent te voir sont au courant de cette méthode, sont dans cette démarche, ou est-ce que tu as eu quand même, dans le DIWA, là, parce que tu as une trentaine, quarantaine d'années de carrière, tu as eu à aller chercher des gens, à expliquer, à prouver peut-être l'utilité, l'efficacité de ces remèdes?
Il y a des patients qui d'emblée pensent que l'homéopathie, de toute façon, ça ne peut pas marcher sur eux.
Et pourquoi d'ailleurs ?
Parce que justement, quand on applique des recettes de cuisine, c'est pas toujours la médecine, c'est pas de la cuisine et ça ne marche pas forcément. Il y a trop de facteurs différents qui font qu'un remède peut marcher pour quelqu'un, mais il ne marchera pas pour quelqu'un d'autre. Je vais essayer de m'expliquer. Par exemple, si on prend une angine, il va y avoir... imaginons une personne qui arrive chez moi au cabinet en me disant j'ai une angine depuis hier, mon patron vient de me dire qu'il trouvait que je ne travaillais pas assez bien et que si je ne mettais pas le paquet double pour la semaine qui vient, je serais probablement licenciée. J'ai rien pu lui répondre parce qu'en ce moment j'ai ma mère qui est malade à l'hôpital, j'ai un enfant qui ne va pas bien et du coup je dors très mal et du coup j'ai pas toute mon énergie. Effectivement, j'en ai peut-être pas donné assez, mais à l'idée que je vais être licenciée, j'ai eu mal à la gorge d'emblée. Et d'emblée, j'ai ce mal à la gorge et depuis, il me tient, ça me brûle, etc. Pour ce patient, il est évident que le mal à la gorge ne vient pas d'un courant d'air ou ne vient pas d'un microbe. Il vient parce que tout d'un coup, il se dit, si je ne fais pas mieux, je perds mon emploi et ma situation qui est déjà précaire risque de s'aggraver. Ça, c'est une première raison pour avoir une angine et cette raison-là va répondre à certains remèdes ou en tout cas à une certaine écoute. Si j'ai un autre patient qui me dit, moi je suis allée me baigner dans la Drôme, il y avait vraiment des j'y suis allée, après je me suis l'eau est glacée, après je me suis mis sur les galets qui étaient brûlants, le chaud froid ça ne me vaut jamais rien, là-dessus j'ai pris une insolation, regarde les coups de soleil que j'ai, oh, putain, j'ai hyper mal à la gorge, c'est pas le même mal de gorge. Ils ont tous les deux une angine, mais ils ne sont pas du tout au même niveau vibratoire l'un que l'autre. Voilà. Et du coup, ça ne sera pas les mêmes remèdes qu'on va donner. Si par contre, je dis juste à mon médecin, voilà, j'ai mal à la gorge et j'ai mal à la gorge que du côté gauche et ça m'irradie dans l'oreille et que je ne lui dis pas c'est mon patron qui me met à la porte ou c'est que j'ai pris une insolation à la rivière, ils vont dire, ah, mal à la gorge, côté gauche, pourquoi pas, tu vas prendre la késis. Si on sait que c'est une colère rentrée, c'est pas forcément la késis. Ou si on sait que c'est une insolation qu'il y a derrière, c'est pas non plus forcément la késis. Voilà.
Donc il faut faire parler le patient.
Oui, et c'est ça que les gens viennent chercher souvent chez les médecins. Et ce qui est très difficile à pratiquer pour un médecin, parce que la médecine n'est pas faite pour ça, n'est plus faite pour ça. Les patients sont malades de ce qu'ils n'arrivent pas à dire. Et normalement, le médecin est quelqu'un qui vient écouter et prendre soin du patient, c'est-à-dire de lui permettre d'avoir l'espace-temps d'exprimer ce qui ne lui va pas en ce moment dans sa vie. Et c'est drôle parce que des fois, les gens viennent pour une épaule douloureuse et en fait, de fil en aiguille, on s'aperçoit qu'ils ne se sont pas remis du décès d'un copain qui est décédé dans un accident de voiture ou de quelque chose qui datait de 6 mois plus tôt. Et quand ils repartent, souvent, ils disent « Mais ça alors, je ne pensais pas vous raconter tout ça, je suis venue juste pour mon épaule. Mais ce qui se passe, c'est que quelques jours après, ils vont beaucoup mieux. Donc il y a une alchimie qui se passe entre le vécu des patients, l'émotionnel des patients, et puis peut-être l'écoute du médecin, et puis aussi bien sûr le remède qu'on va donner. Et si on arrive à faire que cette alchimie soit sur le même niveau vibratoire, parce que pour moi l'homéopathie c'est une vibration, et bien on peut vraiment aider quelqu'un. Il existe bien d'autres méthodes holistiques. Bon, moi, je parle de celle-là parce que c'est la mienne.
Du coup, est-ce que c'est des patients conscients déjà de tout ceci qui viennent te voir, ou est-ce qu'il a fallu que tu crées un public ?
Je ne sais pas si j'ai créé quoi que ce soit, mais je pense que les gens vont... Il y a des gens qui viennent, des fois par curiosité, puis ceux-là, en général, je ne les revois pas. Puis il y en a qui viennent parce qu'ils ont un problème et qui sont prêts à le prendre à bras-le-corps. Et du coup, à se décrire, à s'expliquer, à se dessiner devant quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas une heure avant. Et rien que parce qu'ils se prennent en charge, c'est ça, développer le médecin intérieur. C'est-à-dire que le patient n'est plus quelqu'un de passif. Un patient et passif, ce n'est pas du tout la même chose. On peut être patient, même si parfois on a du retard, nous les médecins. On peut être patient d'un thérapeute, mais il faut être actif dans les moyens de sa guérison. Parce que la guérison, c'est, elle vient de nous, elle vient de l'intérieur.
Et du coup, ça donne quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on pourrait se connaître tellement suffisamment qu'on n'ait plus besoin de te voir, et aussi même physiquement de te voir. Un coup de fil, ça suffit. On s'explique et puis hop.
Alors, ouais, les coups de fil et puis tout ce qui est téléconsultation, c'est bien, c'est super bien, surtout dans des époques comme aujourd'hui. Mais il y a quand même des fois des limites. Quand on nous parle d'une plaque, c'est important de savoir si c'est un zona, si c'est un eczéma, si c'est un urticaire, si c'est... Et des fois, les mots qu'on emploie sont employés pas forcément avec justesse et on peut confondre. Donc, l'énergie d'une vraie consultation est importante. Mais c'est vrai que quand on connaît un patient et que ce patient... a l'habitude d'aller voir un médecin, il sait qu'est-ce que le médecin a besoin pour pouvoir l'aider, et du coup il sait se décrire, et du coup ça permet d'éviter les consultations, donc c'est une bonne chose. En fait, l'important, et je pense qu'on est peut-être tous pareils, les médecins, c'est que nos patients soient le plus autonomes possible, donc ils aient le plus de clés pour d'abord trouver ce qui leur convient le mieux pour être en bonne forme, de comprendre quand ils tombent malades qu'est-ce qui est derrière cette maladie. Même aujourd'hui, un virus n'est pas forcément... c'est l'étiologie, c'est-à-dire c'est la cause évidente, mais il y a sûrement une autre cause derrière. Hein, c'est comme quand on... Je suis désolée de parler de ça, mais quand on signe un acte de décès, on nous dit la personne est morte de... Et on doit dire elle est morte de, je vais dire une chose, insuffisance respiratoire, due à quoi ? Due à une silicose qui datait depuis X temps, et puis on pourrait aller plus loin, due à quoi ? Due à un travail dans une mine pendant 35 ans de sa vie, etc. Voilà, donc si on va plus loin, la première chose qui nous arrive, elle peut être exogène, un virus, une bactérie, une tuile qui nous tombe sur la tête. Exogène, ça veut dire qui vient de l'extérieur de nous. Mais si ça vient, peut-être qu'on est suffisamment ouvert pour appeler ça, ou en tout cas, on fait partie d'une ambiance qui crée ces virus ou ces bactéries.
Bah alors, on va mettre les pieds dans le plat. De quoi le monde a besoin de se soigner avec ce Covid-19 ? Cette nouvelle pandémie.
Je pense qu'il y a tellement de choses à dire, je ne sais pas par quoi commencer. En tout cas, moi, quand il a fallu trouver des remèdes, alors qu'on ne sait pas, quand on voit un patient, s'il a ça, s'il a une grippe, s'il a autre chose.
Oui, vous n'avez aucun moyen de tester, vous, là, tous les praticiens, là, vous n'avez pas
si,
vraiment de moyen de
commence,
tester.
Ça commence, et quand on a des patients donc, qui ont des symptômes un peu évidents, bien sûr qu'on peut les tester. Mais au début, ce n'était pas tout à fait le cas et ça fait déjà un moment qu'on se pose ces questions.
Toi-même, tu t'es posé des questions depuis le mois de décembre en France.
Moi, je me pose des questions depuis un bon moment, oui, parce que j'ai l'impression que les enfants ont traîné cet hiver des maladies comme jamais, des petites infections qui s'arrêtent, qui repartent, puis de nouveau ils sont bien, puis de nouveau il y a de la fièvre, puis ils vont tousser pendant X temps, comme si un enfant qui normalement et justement encore à l'âge où on fait des maladies aiguës et pas trop de maladies chroniques, était en train de rentrer dans quelque chose de chronique. Donc pour moi, ça m'a fait une sorte de sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui se passe pour que des enfants dans le Diwa, qui sont plutôt relativement protégés au niveau air, au niveau eau, au niveau vitalité du lieu de vie, sont autant malades que des petits Parisiens ou Marseillais ou d'autres enfants qui habitent dans des conditions beaucoup plus défavorables au niveau air, eau, ensoleillement, vitalité, etc. Donc, quand ce coronavirus est arrivé, je me suis posé la question dans quel contexte il arrive. Et puis, j'ai juste regardé l'année 2019 et je me suis dit, c'est une année, je me suis dit comme tout le monde, hein, c'est une année qui a été dramatique. D'abord, au niveau des feux, on a brûlé on a la terre a brûlé comme jamais, et en brûlant, elle a calciné une partie de toute la flore qui est quand même, il ne faut pas oublier que c'est grâce à elle qu'on renouvelle notre air tous les jours, quoi. Et cette flore, elle a été détruite sur je ne sais pas combien de milliers ou de millions de kilomètres carrés. Donc déjà, on a abîmé les poumons de la planète. En plus que jamais l'année dernière, on a eu des immigrations pour plein de raisons différentes et dans différents lieux d'ailleurs. Et ces immigrations ont été traitées avec beaucoup d'inhumanité, pas par tout le monde, hein, bien sûr, mais on a pas mal de pays qui ont fermé leurs frontières, qui ont rejeté des personnes qui pourtant étaient elles-mêmes rejetées de leur endroit. Donc on a eu un rejet énorme de nos frères. Ensuite, du fait de la sécheresse qu'il y a eu, on a vu beaucoup de cultures qui ont complètement dépéri. Donc les céréales qui ne sont pas arrivées à produire, à être fertiles, à produire des grains, des plantes qui ont séché parce que malades et parce que pas assez d'eau. Donc on a manqué d'eau et on a eu une sécheresse qui était assez énorme, qui augmente d'année en année. Et cette sécheresse, qu'est-ce qu'elle fait à son tour ? Elle brunit, elle jaunit tout ce qui nous apporte de la chlorophylle. Donc encore une fois, on a empêché la planète de respirer. Là-dessus, on a les COP21 et co qui nous disent « attention, il faut faire quelque chose ». Et aucun des pays a peur de ralentir sa croissance, de peur de se faire phagocyter par le pays d'à côté et de perdre sa place sur les marchés. Et du coup, c'est la course à quelque chose que je ne comprends toujours pas, mais c'est toujours la course. Et donc, on était dans cette ambiance-là. Et si on regarde cette ambiance-là, elle a détruit une partie de notre poumon planétaire, d'autant plus qu'on s'attaque toujours avec autant de virulence à nos forêts primaires sur la planète actuellement. Donc on a été vraiment, on a perturbé, on va dire, la respiration planétaire. Et il nous arrive aujourd'hui un virus qui migre à une vitesse folle, qui arrive sans... à bas bruit, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on l'a attrapé, si on ne l'a pas attrapé. Petit à petit, il fatigue, il entraîne une baisse de nos défenses immunitaires, c'est-à-dire de nos globules blancs, et puis petit à petit, une fatigue de plus en plus importante, et puis finalement, une atteinte respiratoire extrêmement bizarre, puisqu'on parle de fibrose pulmonaire, c'est-à-dire ce qu'on peut avoir justement chez quelqu'un qui aurait travaillé dans une mine, c'est-à-dire quelque chose qui est comme un tissu cicatriciel qui se met sur les poumons et qui est théoriquement irréparable, donc relativement grave. Et bien sûr, beaucoup de ces viroses s'arrêtent bien avant, mais pour certains, ils vont jusque-là, et là, on est vraiment bien démunis pour les soigner.
C'est-à-dire que même soignés, d'ailleurs, ils vont garder cette séquelle du mineur toute leur vie ?
Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ceux qui arrivent à avoir cette fibrose pulmonaire, c'est eux qui vont en réanimation et c'est eux qui ont besoin d'oxygène, quoi. Ils n'arrivent plus à respirer. Ils ont une sorte de... Ils le disent tous, c'est comme s'ils n'arrivaient pas à dilater leur cage thoracique. Comme si quelque chose comprime la cage thoracique et qu'ils ne peuvent plus expirer comme avant. Donc, c'est un peu comme si on était dans cette... on avait tout d'un coup...
Les mêmes symptômes que la Terre,
exactement.
Qui ne peut plus respirer, donc on a tout cramé, la pollution est montée en flèche, les degrés augmentent, donc il y a la cause du réchauffement climatique, une cause économique, une pandémie. C'était quoi la quatrième? Tu nous parles de l'effondrement.
Ben, je pense que je vais peut-être pas te répondre directement, mais du coup, je me suis interrogée sur les remèdes qui pourraient correspondre à cet état de fait, c'est-à-dire trouver plutôt une plante, puisqu'on cherche de la chlorophylle. C'est marrant, on cherche de la chlorophylle pour remettre la respiration en route, et les médecins un peu qui n'ont pas de ristourne avec les laboratoires pharmaceutiques ont parlé de la chloroquine. Alors, chloroquine et chlorophylle n'ont pas de rapport. Hein. Dans chlorophylle, il n'y a pas de chlore. Il y a le chlore. Et chlorophylle, ça veut dire feuille verte. Hein. Mais chloroquine, il y a du chlore. Et le chlore, c'est justement ce qui... des organochlorés, qui sont des herbicides qui ont été interdits en Occident, sont des herbicides qui, justement, empêchent la chlorophylle de travailler. Donc, entre chlorophylle et chloroquine, il y a le problème, est-ce qu'on respire ou est-ce qu'on ne respire pas? Et du coup, j'ai cherché une plante qui pourrait correspondre à cette ambiance dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une plante qui migre, qui envahit notre planète et qui est rejetée, qui est même éradiquée. Une plante qui, malgré la sécheresse et les températures de plus en plus hautes, et malgré des sols qui ont été complètement détruits ou abîmés, ne serait-ce que parce qu'ils ont été traités ou parce que des gros engins sont passés dessus, une plante qui reste verte malgré tout ça.
Je peux tester ?
Oui.
C'est l'ambroisie ?
Ben oui. Et du coup, en la testant en homéopathie, il y a des résultats qui sont... Alors, j'ose même pas en parler comme ça, mais ouais. Je veux dire, peut-être en préventif, c'est une bonne plante parce qu'elle... Elle agit aussi sur les poumons. Chaque année, il y a des gens, il y a une quinzaine d'années, il y a des gens qui quittaient la vallée du Rhône pour venir dans le Diwa ou vers Luc parce que justement, il n'y avait pas encore d'ambroisie dans ce coin-là et que quand ils étaient sur la vallée du Rhône, à partir de l'été, ils ne pouvaient plus être dehors parce qu'ils risquaient de faire des crises d'asthme. Et il y a régulièrement, chaque année, je crois qu'il y a quelques morts à cause de l'ambroisie par des réactions allergiques violentes. Voilà. Donc oui, cette plante me fait dire que dans son rejet, dans son côté migrateur, dans son côté vert, quelle que soit la sécheresse, quand toutes les autres plantes meurent, elle reste verte. Je me dis qu'elle a quelque chose à nous apprendre, quoi. Voilà. Donc c'est une plante que je préconise et qui m'a donné quelques bons résultats. Voilà. J'ose pas me prononcer plus parce qu'il faudrait plus de recul, mais j'espère que d'autres confrères vont l'utiliser aussi.
Et juste pour fermer la parenthèse chloroquine... Tu parles du chlore qui donc empêche de respirer. Mmh. Et on l'administre aux personnes qui ne peuvent plus respirer ?
Normalement, non, pas tout à fait ça, mais ça m'a trop fait sourire tout ce débat sur est-ce qu'on a droit de donner de la chloroquine ou pas. La chloroquine, administrée souvent avec un antibiotique, quand il y a un début d'infection, peut complètement arrêter la bactérie. Une fois que l'infection est bien installée et que les gens commencent à avoir des problèmes respiratoires, je crois que c'est plus suffisant. Mais en préventif, c'est pas mal. Et le chlore, pour un homéopathe, le chlore représente l'énergie maternelle. C'est-à-dire que le chlore est un élément du tableau de Mendeleïev que l'on retrouve dans tous les liquides une fois qu'on a quitté le ventre maternel. Et du coup, de là à se dire tiens, c'est quelque chose qui se substitue à l'énergie et l'amour maternel, c'est peut-être important. Donc nous, on utilise muriaticum, qui est le nom latin du chlore, chaque fois qu'on va avoir l'impression qu'une personne a eu des liens avec sa mère très difficiles, absents, en conflit, ou chez un enfant qui aura peu de contact avec sa maman pour X ou X raisons.
Ça me fait sourire parce qu'en fait, on a un problème avec notre mère, si Terre. On considère la Terre comme...
Eh bien voilà, j'allais te le dire, exactement. Ouais. Donc c'est pour ça que les remèdes, il y en a sûrement plusieurs, on n'a pas tous la même sensibilité. Pour moi, un remède qui contient du vert... quel que soit le temps, est très important aujourd'hui. Mais un remède minéral qui contiendrait du chlore est aussi un remède qui me semble très important aujourd'hui parce qu'il amène cette énergie maternelle qu'on a un peu délaissée. Je ne veux pas parler d'une personne en particulier, je veux parler de la terre en général et de notre façon très yang de gérer les problèmes terrestres aujourd'hui. Et l'énergie maternelle nous rattrape d'une façon ou d'une autre.
Voilà, l'humanité est un peu contre la nature en ce moment. On ne sera pas les premiers à le dire, surtout pas à cette antenne, mais globalement, tout le monde est en train de s'en rendre compte. Alors avant de parler de cet après, qu'est-ce que tu fais pendant le confinement ?
Ben moi, je ne suis pas confinée du tout, donc je travaille comme d'habitude, sauf que je passe beaucoup plus de temps au téléphone, parce qu'il y a des tas de consultations qui peuvent être remises. Il y a des personnes... j'essaye de répondre systématiquement, parce qu'il y a des personnes qui pourraient être anxieux d'une fièvre, d'un mal de gorge, d'une toux qui leur arrive. Et puis j'essaye de donner le maximum de conseils pour être le plus autonome possible. En fait, ça ne change pas grand-chose pour moi, sauf que j'ai plutôt moins de consultations
au cabinet.
Ouais. C'est presque plus fatigant de répondre au téléphone en permanence. Mais
plus de déplacements aussi
Non, j'ai moins de déplacements. Je vais voir des personnes qui sont dans des... conditions un peu difficiles, mais sinon je fais moins de déplacements. J'en fais déjà pas beaucoup du fait que je suis homéopathe, mais là j'en fais un peu moins.
Donc ça décroisse là aussi.
Oui, oui, oui. Je pense qu'on a tous besoin de ce temps-là. Ce temps qui est disponible, il est hyper important. Je suis désolée de dire ça pour ceux qui sont enfermés dans des tout petits appartements. Encore une fois, on n'est pas tous égaux dans ce confinement, parce que j'imagine que des familles... De 4 ou 5 avec des petits dans un petit appartement dans lequel il n'y a pas de parc ou d'aller bordé d'arbres ou d'animaux, d'oiseaux à côté, ça doit être terrible. Mais le confinement ramène à des valeurs qu'on avait peut-être oubliées. Justement, ces valeurs maternelles, ces valeurs de prendre le temps de cuisiner, de prendre le temps d'être à table ensemble, de prendre le temps de faire des activités toutes bêtes, des jeux, de la lecture, du chant, de la musique. Il y a plein de gens qui m'expliquent que dans leur confinement, ils apprennent telle langue qu'ils avaient toujours rêvé d'apprendre, mais qu'ils n'osaient pas, ou tel instrument de musique qu'ils ne se sont jamais donné la peine de démarrer parce qu'ils n'avaient pas de temps. Voilà, il y a comme un regain de création qui sort. Ça, c'est le côté bénéfique. Il y en a vraiment beaucoup. Et puis, il y a un côté relation qui est important, parce que même si on fait du télétravail et qu'on se fait coucou par les balcons régulièrement, il y a un lien humain, il y a un lien vibratoire humain, tactile, qu'on ne peut plus trop faire et qui va se faire à travers les quelques personnes qui se voient quand on est confiné. Et ça, c'est hyper important.
Est-ce que tu penses que c'est une bonne mesure, le confinement ? Ça peut l'être, puisque enfin on revient chez nous, on se réoccupe de nous, de notre maison, de notre famille, de notre vie. On va moins vite, on s'est calmé. Est-ce que pour autant, d'un point de vue médical, c'était la solution, la bonne ? Est-ce qu'on peut la critiquer ?
Il y aura toujours des critiques. Moi je suis peut-être pas... J'ai pas forcément réfléchi. J'ai ouvert des grands yeux quand j'ai compris qu'on allait rester... que les gens allaient rester confinés, pour plein de raisons d'abord. Parce que comment on allait confiner des gens bien portants et des gens malades, premièrement. Deuxièmement, pourquoi confiner des gens quand on sait qu'on arrive dans le printemps et que l'énergie du printemps, notamment pour les enfants, de sortir, de rire dehors, de courir, de respirer à plein poumon dans les parcs, dans les forêts, dans les jardins, tout ça, ça allait être limité à une heure, voire je ne sais plus combien de temps par jour. Donc je me suis dit, mais si on veut briser l'immunité, encore une fois, l'immunité, c'est notre capacité, pour moi, au-delà d'un problème de défense, l'immunité, c'est notre capacité à rentrer en lien avec ce qui n'est pas nous, à rentrer dans un lien bénéfique, bienveillant. Et si on reste confiné, que devient ce lien ? Donc pour moi, cette immunité est en baisse. Le fait de rester chez soi est sûrement pas, pour moi, la bonne réponse. Je ne suis pas une scientifique et je n'ai pas les compétences que ceux qui ont pris ces décisions. Mais ce qui me paraît important, c'est que quand quelqu'un n'est pas heureux, son immunité baisse. Quand quelqu'un est triste, son immunité dégringole. Quand quelqu'un se sent frustré, triste, peiné, loin des siens, abandonné, alors là, l'immunité ne vaut pas cher. Donc je me dis ouille, ouille, ouille. Ça, c'est ma première réflexion. Deuxième réflexion. Je crois, c'est peut-être que j'ai pas forcément, mes souvenirs sont pas forcément bons, mais il me semble avoir entendu que la grippe espagnole, elle a commencé quasi en même temps en Chine, en Espagne et aux USA. Donc à l'époque, il n'y avait pas tant d'avions à réaction et pas tant de voyages. Et pour moi, encore une fois, un virus, il n'est pas la cause première de ce qui nous arrive. En fait, si on regarde dans les différents règnes vivants qui sont sur cette planète, le virus est aussi éloigné de nous que nous, on est éloigné du soleil. Donc un virus nous attaque ou que nous on attaque le soleil, ça me paraît aussi aberrant. Par contre, je suis désolée pour mes confrères qui ne pensent pas comme moi, je cherche pas du tout à créer de la discorde. Je veux juste te dire, si un virus rentre en nous, c'est parce qu'on a une telle pollution à l'intérieur, un tel abandon de notre humanité, de telles aberrations à l'intérieur de nous, que c'est comme si on lui ouvrait grand notre porte et qu'on lui dit, écoute, il y a du nettoyage à faire, vas-y. Le problème, c'est que des fois, le nettoyage est plus violent s'il est fait au Karcher ou il est plus violent que la pollution qu'il y avait à l'intérieur. Et pour les gens qui sont en ce moment plus fragiles, et ben effectivement, ce nettoyage est vraiment gravissime. Voilà. Un virus, il arrive partout parce qu'il y a la même énergie partout. C'est une ambiance d'abord intérieure qui est en miroir avec l'ambiance extérieure qui va faire en sorte que ce virus se développe partout. Exactement comme quand il y a... une maladie sur les noyers ou une maladie sur les vignes, elle va démarrer effectivement à un endroit, mais de toute façon, tôt ou tard, même quelqu'un qui aura sa vigne hyper éloignée, il aura plus ou moins sa vigne contaminée s'il est dans le même mode de conduite ou si la vigne est dans le même état vibratoire que les premières vignes qui ont, même si elles sont à 1000 km de là, qui ont été contaminées.
Du coup, il y a aussi une dimension politique à tout ça. Est-ce qu'on peut encore bouger ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment va-t-on se déconfiner ? Et qu'est-ce qu'on fait après, pour toi ?
Alors, après, moi, je fais jour après jour. Donc, après, j'ai un peu de mal. Mais je me dis que soit on tire une magnifique leçon de ce qui vient de se passer. On tire une magnifique leçon. Il y en a plein à tirer. La première leçon, c'est que... il y a effectivement des êtres qui ont dit « nous sommes en guerre ». Pour moi, on n'est pas du tout en guerre. Pour moi, on est juste en adéquation avec l'inadéquation qu'on a fait créer sur cette planète. Voilà. Et qu'on doit en tirer des conséquences, c'est-à-dire on doit d'abord apprendre à ne pas attendre d'avoir de la fièvre et de la toux pour se dire je vais à l'hôpital ou je dois prendre tel ou tel remède. On doit reprendre notre gouvernance intérieure. On doit avoir des petites thérapeutiques faciles à la maison qui nous permettent, quand on commence à voir que notre immunité n'est pas bonne, de la soigner par soi-même. Que ce soit la prise de plantes immunostimulantes, que ce soit des huiles essentielles, que ce soit des oligo-éléments, que ce soit de l'homéopathie, que ce soit de la très bonne bouffe, je suis d'accord avec toi, ou une super rigolade, c'est encore mieux, parce que je crois que le rire là-dessus, c'est quelque chose qui détend tout, et qui du coup stimule énormément l'immunité. Voilà, ça c'est une des premières choses à voir, c'est qu'on n'a pas à laisser... un petit virus, quel qu'il soit, dans les mains d'un gouvernement, quel qu'il soit. On doit d'abord le traiter avec nos propres moyens. Manger bien, vivre bien, respirer bien, prendre les choses avec le plus... Il y a des tas de choses où on est impuissant, mais au moins prendre ça avec le plus de sérénité possible. Ça, c'est vraiment les meilleures façons déjà d'être plus ou moins autonome, et le plus, ce serait encore génial, quand arrive quelque chose qu'on ne connaît pas et qui vient nous déstabiliser. Deuxièmement, il faut comprendre que dans chaque période de vie, il y a toujours eu des épidémies. Les épidémies ont toujours fait des dégâts, mais souvent, elles ont révélé une partie de l'humanité qui avait été oubliée. Et il faut se rappeler de ça, c'est qu'il y a des gens qui, de par leur âge, qui, de par les médicaments qu'ils prennent, ont été isolés Et même si certains vivent bien, il faut penser à eux, il faut essayer de créer un vrai voisinage avec des vraies valeurs d'échange, des vraies valeurs d'entraide. Ça, c'est hyper, hyper important. Troisièmement, moi, j'y connais rien en politique, mais depuis le début, j'entends parler d'une dette et d'une dette et d'une dette. Mais si tous les hommes doivent de l'argent à une seule banque sur cette planète, que vaut cette banque par rapport à toute l'humanité? Donc pour moi, une des conséquences de ça, c'est annuler la dette. Comme on l'a pas fait, comme on aurait dû le faire dans les pays pauvres, on a annulé la dette aujourd'hui. Quand je dis la dette, je ne sais même pas de quoi je parle, donc je suis vraiment ignare dans la matière, mais je me dis juste que on nous parlerait d'un ogre à qui il faut donner sa ration d'être vivant pour qu'il soit tranquille et qu'il ne mange pas nos petits-enfants dans les villes ou les villages, ça serait pareil. Cet ogre a assez mangé, cette dette, on ne sait pas ce qu'elle fout. Même si c'est une banque qui doit crouler, ben qu'elle croule. Nous, les humains, avec la puissance d'amour qu'on a et la conscience qui est en train de s'ouvrir avec tout ce qui se passe, on est capable de se relever.
Tu disais de ne pas t'intéresser trop à la politique, mais enfin, jusqu'à présent, il y a une espèce de paradoxe entre ce que les gens sont peut-être en train de constater depuis 3 semaines en France, par exemple, mais ou ailleurs dans le monde, et la manière dont ils ont voté, dont ils se sont exprimés, les personnes qu'ils ont soutenues, les trajectoires qui ont été prises. Il y a une crainte qui peut-être est là, qui est que si on se déconfine, tout repart exactement pareil. Avec aussi cette idée que des entreprises ont perdu du temps, là, ont perdu de l'argent, ont perdu quelque chose. Est-ce que tu vois le début d'une prise de conscience pour faire autre chose? Je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais...
Moi, je suis persuadée que cette crise peut être bénéfique. Ça va dépendre de notre volonté à nous et de laisser notre égoïsme à la porte. Parce que il y a effectivement des tas de corps de métier qui ont été beaucoup plus touchés que d'autres. Il y a des gens qui vont perdre énormément, y compris la vie, mais il y en a d'autres qui vont perdre la vie de leur conjoint ou de leurs enfants ou de leur famille et qui vont perdre aussi beaucoup financièrement. Nous, on peut se permettre de dire ça parce qu'on est des pays riches. Dans les pays pauvres, ils perdent leur vie et il n'y a rien d'autre. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que c'est pas possible, ou alors il nous faudra une crise encore plus forte, c'est pas possible qu'on reparte comme avant. Il faut que derrière, il y ait des choses qui soient mises vraiment noir sur blanc. Il faut que les règles, je sais pas.
Mais parce que par exemple, les écologistes ont dit à un moment donné, il faudrait décroître, arrêter de déplacer pour rien, consommer que ce qui est essentiel, etc. Et là, on se rend compte qu'avec le confinement, c'est ce qui se passe.
C'est bien mieux que la COP21.
Et donc, tout le monde, les gens ne voulaient pas de ça parce que, des règles, on va nous empêcher dans nos libertés. Et en fait, il semble qu'il n'y ait pas d'autre solution. Qu'on pense du coup notre liberté autrement, mais ça veut dire qu'il y a toute une éducation à faire, etc. Que cette liberté de consommer, de faire n'importe quoi.
On s'est rendu compte qu'on pouvait bien vivre sans avoir acheté du superflu, sans avoir consommé des choses qui étaient pas nécessaires. Je pense qu'il y a toute une partie de notre économie qui va être à être transformée, qui va devoir se transformer parce qu'elle n'est pas nécessaire. Je pense qu'en ce moment, il y a une telle inadéquation entre certaines formes de richesse et la plupart des gens, entre notre pays et des pays d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique du Sud, que tout ça est à revoir. On a voulu fermer les yeux là-dessus et il y a un petit virus de rien du tout qu'on a appelé de toutes nos forces parce qu'on ne pouvait plus supporter chacun de nous. On disait mais c'est pas possible, mais on marche sur la tête, etc. Il n'y a qu'à voir le très beau texte qu'a fait Colline Serrault. Il est temps maintenant qu'on accepte de voir les choses et qu'on change notre façon de voir. Mais je pense qu'une des premières choses qui est importante, c'est qu'on n'est pas, nous les humains, en compétition les uns avec les autres. On nous a trop fait croire ça longtemps. Attention, c'est les soldes. S'il n'y a que 15 voitures à tel prix ou 15 jeans à tel prix, les autres seront plus chers, il faut venir les premiers. Et c'est toujours une course et on nous mène... Pareil, quand on passe des examens, il n'y a que 15 places au lieu sur sur les 1000 personnes qui se présentent. La vie n'est pas comme ça, il y a une place pour chacun. Et si on respecte cette place, on voit l'autre comme ayant aussi une place importante et on n'a plus ces problèmes de « il m'a pris ma place ». Et ça, c'est faisable. Je pense que peut-être que tout ce travail qui a été délaissé ces derniers temps, notamment dans tout ce qui est soins, tous les appels au secours qu'ont créé les services d'urgence depuis plus d'un an. Bill Gates disait en 2016 qu'il allait y avoir une pandémie qui allait être grave, etc. Avec tout ce qu'il a comme moyen de gérer le monde, il n'est pas du tout un visionnaire. Mais par contre, les infirmières qui disaient aujourd'hui, je sais plus ce qu'elles disaient, l'État compte ses sous, demain il comptera ses morts, là, elles étaient complètement visionnaires. Parce que ça fait un moment qu'elles demandent de l'aide et personne ne les a vues. C'est tout ça qu'il faut mettre à plat. Et il faut comprendre aussi que on est une société où plein de gens réfléchissent et que c'est plus à donner, le fruit de ces réflexions n'est pas à donner à une ou deux personnes, mais vraiment à donner à des consensus ou en tout cas à des personnes qui travaillent ensemble pour essayer de faire changer les choses. Je pense que nos gouvernements ne sont plus du tout adaptés à l'ouverture de conscience qu'il y a aujourd'hui sur la planète et notamment dans nos sociétés démocratiques.
Merci Dominique.
Merci à toi.